Personne X, introduction au sujet, script audio. Avant de commencer, une petite remarque. Ceci est une introduction grand public au sujet, réalisée avec l'aide de l'intelligence artificielle. C'est une première prise de contact, pas un exposé technique exact, ni le dernier mot sur la question. Qui voudra les détails et la formulation précise, les trouvera dans le pamphlet écrit et dans le white paper. Et maintenant, entrons dans le vif du sujet. Souvenez-vous du moment où quelqu'un vous a fait du tort et où vous saviez que vous aviez raison. Pas où vous le soupçonniez, où vous le saviez. Vous l'aviez noir sur blanc. Un papier, des témoins, une date. Le voisin a saboté votre clôture. Une entreprise ne vous a pas payé votre facture. Une administration vous a détruit 6 mois de vie avec un tampon que personne ne voulait signer. Et vous vous êtes dit que vous n'alliez pas laisser passer ça, que vous alliez vous défendre. Vous avez pris votre courage à deux mains, vous avez rédigé ce que vous aviez, et vous êtes parti réclamer justice. Et là, vous vous êtes cogné à un mur. Pas à la mauvaise volonté d'une seule personne, à un mur, à un système qui vous a écouté, qui a hoché la tête, et qui vous a ensuite dit quelque chose qui vous est resté en tête jusqu'à aujourd'hui. Il vous a dit « Oui, c'est une injustice, mais ne faites rien, parce que sinon vous aurez un problème encore plus gros, avec moi. » Et vous avez laissé tomber. Presque tout le monde finit par laisser tomber. Non pas parce qu'on aurait tort, mais parce que le coût d'avoir raison est devenu d'un coup plus élevé que l'injustice elle-même. La justice s'est révélée être un produit de luxe. Quelque chose que vous ne pouvez vous offrir que si vous avez assez d'argent, assez de temps, assez de nerfs et assez d'avocats. Et la plupart des gens n'ont pas tout ça à la fois. Alors ils ravalent, ils tournent les talons et ils passent leur chemin. Et c'est exactement à ce moment-là que naît l'idée dont je vais vous parler ici. Remarquez en effet une chose dans cette histoire. L'État a reconnu l'injustice. Il ne vous a pas dit que vous vous trompiez. Il vous a dit que vous aviez raison. Mais il vous a recommandé de la fermer. Et celui qui est d'accord avec cette logique, celui qui l'accepte comme normal, devient, selon l'auteur de l'idée que nous examinons ici, un peu complice. Parce que le monde fonctionne comme ça en grande partie, simplement parce que nous nous y sommes habitués. Parce que ça nous paraît normal que les règles soient écrites par des gens qui ne vivent jamais avec leurs conséquences. Un politicien qui fait voter une loi et qui est ailleurs un an plus tard. Un fonctionnaire qui rend une décision et qui ne rencontre jamais la personne que cette décision concernait. Une couche de gens dont la seule vraie qualification est de savoir jouer le jeu et d'être agréable, de maîtriser leur mise en scène. Et pourtant, autour de nous, vivent plein de gens qui savent s'occuper d'eux-mêmes et de leur entourage mieux que bien des élus. Ils n'ont juste jamais eu l'idée de se vendre. Voilà à quoi ressemble le problème. Je vais essayer de vous la donner en entier en une seule phrase, pour que vous sachiez où je veux en venir, et ensuite on l'examinera lentement. Imaginez un réseau de réputation. Un réseau dans lequel vous fabriquez vous-même votre identité, à partir de vos propres clés, si bien qu'elle n'appartient à aucune administration, ni à aucune entreprise. Elle n'appartient qu'à vous. Vous vous faites inviter dans la communauté par des gens qui sont déjà à l'intérieur, et petit à petit, vous construisez votre réputation par ce que vous faites et par ce que vous pouvez prouver. Et quand une injustice vous arrive, vous n'irez pas supplier à un guichet. Vous apportez ce que vous avez, la communauté regarde ça et décide si et comment elle frappe celui qui vous a fait du tort. Ce n'est pas un truc sur lequel vous devriez rester pendu toute la journée comme sur un réseau social. C'est un outil que vous attrapez seulement quand vous en avez besoin. Il est dans votre poche, et quand l'injustice arrive, vous le sortez. C'est tout. C'est ça, l'idée dans son noyau. Ça sonne peut-être un peu trop joli, alors je ne vais pas vous laisser repartir avec le sentiment que c'est juste une utopie de plus. Voyons sur quoi tout ça repose et pourquoi ça pourrait effectivement marcher. Toute cette construction s'appuie sur 5 choses. Appelons-les les 5 piliers, pour ne pas s'y perdre. On va les passer un par un, et vous verrez que ce n'est pas de la philosophie. C'est plutôt de l'ingénierie. Le premier pilier, c'est le volontariat. Personne ne vous force à entrer dans ce réseau. Vous n'êtes pas obligé d'entrer, vous pouvez vivre toute votre vie dehors. Mais il y a un hic, et il est honnête de le dire tout de suite. Une fois que vous êtes entré, vous ne pouvez plus effacer vos actes. Vous ne pouvez pas exiger un droit à ce que le réseau ne sache rien de vous. S'il y aura des traces de la façon dont vous vous êtes comporté, ça ne dépend que de vous, de la façon dont vous vous êtes comporté. Ici, le volontariat ne veut pas dire que vous choisissez seulement les jolis morceaux. Ça veut dire que l'entrée est libre, mais que les conséquences sont réelles. Le deuxième pilier, c'est l'organisation. Un individu seul ne changera jamais le système. C'est bien pour ça que tout pouvoir surveille depuis toujours une chose par-dessus tout. La façon dont les gens s'associent. À qui il permet de se regrouper et à qui il ne le permet pas. L'idée de Personix répond à ça en disant que la communauté doit pousser par le bas, à partir de ceux que vous connaissez et en qui vous avez confiance, pas d'en haut, à partir de ceux qu'on vise à attribuer. Et surtout, ces communautés doivent recevoir de vrais outils, pour qu'elles ne jouent pas seulement à la communauté, mais qu'elles puissent réellement peser. Le troisième pilier, c'est la résistance. On appelle parfois ça l'incensurabilité, mais disons-le simplement. Le chemin vers le changement ne doit pas dépendre du fait que quelqu'un, en haut, vous l'autorise. Si cet outil pouvait simplement être éteint, quelqu'un l'éteindrait. C'est pourquoi il doit être construit de telle sorte que le coût pour le faire taire soit astronomique. Si élevé que même un État prêt à payer pour surveiller chaque paquet de données qui traverse le réseau n'y arriverait pas. Il ne s'agit pas que ce soit difficile à interdire. Il faut que ce soit pratiquement infinançable. Le quatrième pilier, c'est le consensus. Et là, ça devient intéressant, parce que la solution doit contenir en elle-même une façon de se mettre d'accord et en même temps une façon de contraindre celui qui rompt l'accord. Attention, il ne s'agit pas de dire qu'on va tous gentiment tomber d'accord et que tout le monde sera content. Pas de compromis gagnant-gagnant où on se sourit et on se serre la main. Ce consensus naît de la pression. Concrètement, d'une pression sur l'hypocrisie, et on va tout de suite expliquer comment. Pas par un vote, pas par une signature au bas d'une charte, par la pression. Et le cinquième pilier, c'est l'incorruptibilité. C'est la deuxième ligne de défense, et celle-là vise vers l'intérieur. Le troisième pilier, la résistance, protège le réseau de l'extérieur, contre l'État, contre le pouvoir qui veut le faire taire. Sauf que le réseau peut aussi pourrir de l'intérieur. Quelqu'un graisse la patte d'une autorité. Quelqu'un achète les gens qui sont censés juger. Et l'incorruptibilité, ce n'est pas un seul truc malin qui règle tout. Elle naît de la combinaison de plusieurs principes qui se renforcent mutuellement et qui enferment la corruption dans des coûts tels qu'elle n'est tout simplement pas rentable. Avant de voir comment tout ça tient ensemble, je dois vous mettre deux choses entre les mains. Sans elles, une question continuerait à vous trotter dans la tête. Pourquoi qui que ce soit croirait ce que moi j'écris dans ce réseau ? La première chose, c'est l'identité. Dans ce réseau, vous fabriquez vous-même votre identité, à partir de vos propres clés, pas à partir d'un papier de l'administration. Elle n'appartient ni à l'État, ni à une entreprise, elle n'appartient qu'à vous, et vous pouvez en avoir plusieurs. Et sur cette identité, s'accumulent petit à petit des attestations. Que vous avez fourni un travail honnête, que vous avez tenu parole, que vous êtes bien celui que vous êtes. On appelle ça l'identité décentralisée. Personne ne vous la délivrera et personne ne vous l'enlèvera. La deuxième chose, c'est la manière dont une attestation entre dans le réseau pour qu'elle ait du poids. Et là, il faut distinguer trois personnes différentes, parce que chacune fait autre chose. Si vous les mélangez, ça n'a plus de sens. Le premier, c'est vous, l'émetteur, celui qui veut déclarer quelque chose, que j'ai livré quelque chose, que quelqu'un m'a traité d'une certaine façon. C'est vous qui lâchez l'attestation dans le monde. Sauf que votre parole seule ne suffit pas. Si elle suffisait, n'importe qui pourrait écrire n'importe quoi sur n'importe qui, et on serait revenu aux réseaux sociaux. Donc vous prenez un deuxième personnage à côté de votre attestation. L'autorité. C'est quelqu'un de digne de confiance qui renforce votre attestation. Soit elle examine vos preuves et confirme « je l'ai vu » et ça colle. Soit elle mise directement sa propre réputation et garantit la véracité de son nom. Imaginez un notaire dont tout le gagne-pain tient à ce qu'il a signé au fil du temps. L'autorité joue de votre côté. Elle prête à votre attestation un morceau de sa réputation. Et comme elle vit de sa réputation, elle ne la prête pas à la légère. Et maintenant le troisième. Et ne le confondez pas avec l'autorité, parce que c'est un rôle complètement différent. Le vérificateur. C'est celui qui laisse réellement passer votre attestation dans le réseau ou qui la refuse. Et cette personne n'est pas de votre côté. Elle n'est pas non plus du côté de l'autorité. Elle est impartiale. Et surtout, ce n'est pas vous qui la choisissez. qui va vérifier précisément votre attestation, c'est le réseau qui en décide. Une fonction spéciale le désigne pour chaque attestation prise séparément, de telle façon que l'émetteur n'a aucun moyen d'intervenir. Et attention, ne prenez pas ça pour un simple tirage au sort. Ce n'est pas que vous pourriez réessayer en boucle jusqu'à tomber sur quelqu'un d'arrangeant. Celui que le réseau vous attribue pour votre attestation, c'est avec lui que vous ferez le parcours. Vous ne le choisissez pas, vous ne l'achetez pas, et vous ne l'évitez pas. Il suit des règles qu'il a affichées publiquement à l'avance. Et s'il refuse votre attestation, ce n'est pas fini. Vous passez à la tentative suivante, de nouveau avec celui que le réseau vous désigne, mais plus cher. Et pourquoi comme ça? Pourquoi est-ce le réseau qui vous attribue le vérificateur, et pas vous-même? Précisément, pour que personne ne puisse juger sa propre cause. Si vous choisissiez le vérificateur, vous en prendriez un qui vous est proche, ou vous l'achèteriez, et adieu l'impartialité. Le fait que ce soit le réseau qui en décide, hors de votre contrôle, ferme cette porte de derrière. Voilà, vous avez une identité qui vous appartient. Vous avez une autorité que vous prenez avec vous pour qu'elle renforce votre attestation de son nom. Et vous avez un vérificateur, impartial, que le réseau vous attribue pour votre attestation, pas vous. Maintenant, regardons comment, à partir de ces éléments, naît quelque chose qui tient debout tout seul. C'est ce qu'il y a de plus beau dans toute cette idée, et je veux que vous le compreniez, parce qu'ensuite tout le reste se mettra en place. Tout repose sur une asymétrie, sur un déséquilibre entre ce que coûte le fait de lire quelque chose et ce que coûte le fait d'écrire quelque chose. Regardez l'historique de quelqu'un dans ce réseau, c'est presque gratuit. Bon marché, rapide, accessible à tous. Mais écrire un nouvel enregistrement, affirmer quelque chose sur quelqu'un, ça vous coûte, et de façon démontrable. Essayez de voir ça comme ça. Un système de réputation vaut exactement ce que coûte le fait d'y faire entrer un mensonge. Quand écrire est gratuit, comme on le connaît sur les réseaux sociaux, il est submergé de bruit et d'absurdité, et n'importe qui peut y écrire n'importe quoi sur n'importe qui. Quand écrire est cher et vérifiable, il n'y survit que ce qui est raisonnablement exact. Et attention, pas parce que les gens seraient soudain devenus honnêtes, les gens ne changent pas, mais parce que la malhonnêteté est chassée de ce marché par le prix. Mentir cesse tout simplement d'être rentable. Et maintenant, attention à une chose, pour que vous ne l'enregistriez pas de travers dans votre tête. Ce n'est pas qu'enregistrer une injustice soit bon marché, ce serait une erreur dangereuse. C'est la lecture qui est bon marché. L'écriture vous coûte un effort vérifiable, et c'est justement cet effort qui est l'assurance contre la calomnie. Moins bien vous étayez votre attestation, plus cette écriture vous coûtera cher. C'est ça qui garde tout le réseau propre. Cette écriture vous coûte en effet sur trois plans. Elle vous coûte du temps parce que vous devez attendre que quelqu'un vérifie votre attestation. Elle vous coûte de l'énergie parce que vous devez composer et signer un dossier sérieux. Et elle vous coûte de l'argent parce que ceux qui vérifient facturent leur travail. Et ces trois choses sont partiellement échangeables entre elles. Vous pouvez payer plus et économiser du temps. Vous pouvez sacrifier plus d'énergie et économiser de l'argent. Mais il y a une chose que vous ne pouvez pas acheter, et c'est la réputation. Celle-là, vous ne l'achetez avec aucune somme. Celle-là, vous devez l'accumuler par votre comportement, dont la durée, pas à pas. Et c'est justement cette chose-là, le fait que la réputation ne s'achète ni ne se contourne, qui rend tout le réseau résistant au déluge de fausses identités. Se fabriquer 1000 nouvelles identités, tout le monde sait le faire. Mais donner à chacune d'elles une vraie histoire et une vraie réputation, ça ne se falsifie pas en masse. Et là, je dois vite ajouter une chose pour que ça ne sonne pas de travers. Quand je dis que l'écriture coûte quelque chose, ça ne veut pas dire que vous jetez cet argent par la fenêtre. En fait, il vous revient en grande partie. Souvenez-vous que le vérificateur n'est pas une institution étrangère. C'est encore quelqu'un de la communauté, et éventuellement vous-même. Quand vous vérifiez les attestations des autres, vous êtes payé pour ça. Et c'est là qu'est la clé. Sur la durée, pour une personne honnête et modérée, ça s'équilibre presque. Ce que vous payez pour vos propres enregistrements vous revient sous forme de récompense pour le fait que vous vérifiez vous-même les autres. Votre attestation véridique et utile se rapproche ainsi d'une consigne remboursable. Vous payez, mais ça vous revient. Il n'en reste qu'une petite part pour le fonctionnement du réseau. En revanche, un mensonge ou un enregistrement vide et radical, ça ne revient jamais. Celui-là, c'est de la perte sèche. Et il en découle une règle simple. Vous ne perdez rien quand vous allez avec la communauté. Vous perdez seulement quand vous allez contre elle. Donc pour une personne honnête qui réclame réparation d'une vraie injustice, le coût de la justice se réduit presque à zéro. Celui qui paye cher, c'est seulement celui qui ment ou qui exagère. Allons encore un peu plus loin, parce que c'est là qu'est la deuxième chose géniale. Qui va en fait juger votre attestation? Qui sera ce vérificateur? Eh bien, ça ne se devine pas à l'avance, ça ne s'achète pas. Ni vous, ni un attaquant éventuel, ne savez à l'avance de quelle complaisance vous aurez besoin. Et maintenant, le meilleur. Quand un vérificateur refuse votre attestation, ça ne veut pas dire que c'est fini. Ça veut simplement dire que vous allez réessayer, que vous allez vous adapter, que vous allez apprendre, et que vous allez finalement réussir. Mais plus cher. Ça vous envoie à la tentative suivante, vers un autre vérificateur que le réseau vous désigne de nouveau. Et c'est là que naît ce qu'on peut appeler le radicalisme cher. Plus la chose que vous voulez faire passer est délirante, plus ça va vous coûter. Ça se compose de trois coûts qui s'additionnent, et je vais vous les dire, parce qu'ils sont bien parlants. Le premier, c'est le nombre de tentatives. Une attestation crédible, le premier ou le deuxième vérificateur la prend, et c'est réglé. Une attestation problématique demande un tour, puis un autre, puis encore un autre, et chaque tour supplémentaire coûte. Le deuxième coût, c'est que le dossier enfle. Chaque tour y colle des métadonnées supplémentaires, si bien qu'une attestation qui est passée par 20 tours est 20 fois plus volumineuse que celle qui est passée du premier coup. Et le troisième coût, c'est la prime de risque. Un vérificateur qui accepte de signer quelque chose de contestable facture ça plus cher. Pour une attestation crédible, le tarif de base. Pour une attestation controversée, disons le triple. Pour une attestation radicale, le décuple est facilement plus. Et ce poste-là ne monte pas doucement. Celui-là part en flèche. Et maintenant, la phrase la plus importante de tout ce passage, pour que vous ne m'interprétiez pas de travers. Ce n'est pas de la censure. Aucune attestation n'est interdite dans ce réseau. Le système n'évalue pas ce qui est vrai. Il met un prix sur le risque. Même l'attestation la plus radicale peut passer et peut être publiée. Seulement à un prix qui reflète à quel point le réseau, dans son ensemble, la trouve crédible. Une chose vraie sur le fait que votre voisin a saboté votre clôture, vous la ferez passer presque gratuitement. Un mensonge énorme, selon lequel quelqu'un qui ne vous revient tout simplement pas serait un meurtrier, vous pouvez aussi essayer de le faire passer. Mais vous le payerez tellement cher que ça vous passera. Ce n'est pas une interdiction, c'est un prix. À ce propos, il y a un personnage qu'il est bon d'avoir en tête, parce que vous en aurez besoin. Cette autorité, imaginez-la comme un notaire. Un notaire dont tout le gagne-pain tient à son passé. Quand il signe une attestation, il mise dessus un morceau de sa propre réputation. Et maintenant les chiffres, parce que c'est là qu'est la beauté de la chose. Construire une réputation est long. Disons 2% vers le haut, pour un travail honnête. Un pas, un petit pas, un petit pas. Mais perdre sa réputation, c'est une catastrophe, facilement 70% vers le bas pour un seul mensonge. Imaginez un tel notaire qui s'est construit au fil des ans une réputation à 85%. Quelqu'un vient le voir et lui offre un pot de vin pour qu'il signe quelque chose qui n'est pas vrai. S'il reste honnête, il grimpera avec le temps à 87. D'autres clients viendront, il pourra facturer plus. S'il prend le pot de vin et signe le mensonge, il tombe à 15. 12 ans de réputation construite, envolée en un seul après-midi. Et nous ne prétendons pas que ce notaire est un homme moralement vertueux. Pas du tout. Nous disons que la corruption est tarifée si haut qu'elle ne rentre tout simplement pas dans ses propres calculs. Un seul faux travail lui coûte plus que 1000 honnêtes réunis. Pour être précis dans les calculs, pour que le pot de vin soit rentable pour lui, il faudrait que ce pot de vin pèse plus lourd que ce qu'il risque. Et il risque les deux. La chance de se faire prendre et la quantité de réputation qu'il perdra s'il se fait prendre, et par-dessus le marché, toute la valeur de ce qu'il a accumulé jusque-là. Et comme la réputation peut croître indéfiniment, alors qu'un pot de vin raisonnable à son plafond. Tôt ou tard, se laisser corrompre cesse tout simplement d'être rentable pour qui que ce soit. Vous voyez ici l'incorruptibilité en action. Ce n'est pas un appel à la conscience, c'est de la comptabilité. Bien. Nous avons un réseau, nous avons une réputation, nous avons des vérificateurs. Mais qu'est-ce qu'on fait quand survient l'injustice initiale? À quoi ressemble la justice sans juge, sans tribunal, sans autorité centrale qui dirait « coupable, non coupable » Et là, nous devons être francs sur une chose désagréable que nous portons tous en nous. Les gens ont besoin de ressentir une réparation. Ils ont besoin de voir que ça n'a pas profité à celui qui a fait du tort. C'est presque un besoin sombre, mais il est réel, et qui le nie, construit sur du sable. Si vous regardez l'histoire, combien de fois la question n'était en fait pas de savoir si le procès était parfaitement propre. La question était que la société avait besoin de voir quelqu'un puni. Ce signal envoyé au reste de la société, comme quoi l'injustice n'est pas passée, est souvent plus important que le regard de la victime elle-même. Personne X ne nie pas ce besoin sombre, il le prend et le retourne en quelque chose d'utile. Qu'est-ce qu'une punition au fond ? C'est une forme d'humiliation de celui qui a fait du tort par la perte de ses privilèges, pour que la victime et l'entourage sentent que nuire ne rapporte pas. Il y a deux conditions. Le comportement nuisible ne doit pas être rentable, et en même temps ceux à qui on a fait du tort doivent obtenir ce sentiment de réparation. Mais comment punir quelqu'un sans tribunal et sans gendarme ? Comme ça. Moi, je ne peux pas toucher au bien d'autrui. Ça ne se fait pas, et je ne le veux pas non plus. Mais je peux déclarer publiquement que je ne rendrai mes propres biens et mes propres domaines accessibles que sous certaines conditions. Que celui qui s'est comporté d'une certaine façon n'a pas accès à moi. Je ne commerce pas avec lui, je ne le laisse pas entrer. Et c'est public, exprès public, pour que les autres voient quelle position je prends et puissent se faire une idée de moi. Et là arrive cette magnifique autorégulation par le prix, qu'il faut absolument que vous entendiez, parce que c'est le cœur de toute cette justice sans juge. Imaginez que je me mette à décréter des punitions brutales pour des broutilles, que quiconque me regarde juste de travers est pour moi un criminel à vie. Que se passe-t-il ? L'entourage commence à me voir comme un fou disproportionné. Commercer avec moi devient risqué, parce qu'on ne sait jamais quand je vais m'énerver contre eux aussi. Mes coups pour arriver à négocier quoi que ce soit avec qui que ce soit s'envolent, et les gens commencent à m'éviter, ou ne commercent avec moi qu'à des conditions moins bonnes. L'extrémisme se tarifie tout seul. Mais attention, ça marche aussi dans l'autre sens. Si au contraire je suis exagérément indulgent, si je tolère que les gens me trompent et que je balaye ça d'un revers de main, l'entourage commence à me percevoir comme un risque, comme quelqu'un qui sera indulgent aussi envers ceux qui leur feront du tort à eux, et donc on me le fera payer de l'autre côté. Entre ces deux extrêmes, entre la dureté folle et la mollesse sans limite, il y a un juste milieu raisonnable, et le prix vous pousse tout seul vers lui. Et c'est exactement pour ça que l'auteur dit que la justice cesse d'être un produit de luxe. Non pas qu'enregistrer une injustice ne coûterait rien, ça non. Ça coûte un effort vérifiable, justement pour que l'enregistrement signifie quelque chose. Mais c'est accessible. Cet enregistrement est permanent et les conséquences sont réelles. Et c'est ça, la différence avec aujourd'hui, où réclamer son droit coûte plus cher que l'injustice elle-même. Il y a encore une subtilité que ce réseau sait faire et que les tribunaux ne savent pas. Il ne fait pas de différence entre le fait d'avoir enfreint la loi et le fait d'avoir manqué à votre propre parole. Pour lui, les deux sont un signal également lisible. Quand je déclare quelque part une règle, et qu'ensuite je m'en écarte moi-même, cet écart apparaît et me coûte quelque chose. L'hypocrisie est chère dans ce réseau. Et c'est quelque chose que le monde d'aujourd'hui ne sait presque pas sanctionner, parce que l'hypocrisie n'est pas un délit. Ici, c'est une charge mesurable. Et encore une chose à laquelle nous sommes habitués dans les salles d'audience, et qui ne vaut pas ici. Au tribunal, la culpabilité, c'est 1 ou 0. Soit coupable, soit non coupable. Dans ce réseau, ce n'est pas aussi binaire. Ici, il s'agit d'une accumulation de signaux. Une seule accusation de vol non prouvée ne déclenche pas la condamnation de l'accusé. Elle déclenche plutôt une vigilance envers celui qui accuse. Tiens, quelqu'un pointe du doigt quelqu'un d'autre. Voyons voir de quoi il retourne, celui qui pointe. Ce n'est que lorsque arrivent plusieurs indicateurs indépendants, venus de sources différentes, qui ne se sont pas concertés, que ça prend du poids. Ce qui compte, c'est de savoir si ces témoins sont indépendants les uns des autres. Si le schéma colle, si la chronologie correspond. Et quand quelqu'un pointe du doigt à répétition, et sans raison, c'est évalué comme de la calomnie, et c'est sa propre réputation qui paye. Le menteur ne nuit pas à sa victime. Il se nuit à lui-même. Et puis il y a la réparation volontaire, qui est une belle chose humaine. Quand celui qui a fait du tort fait de lui-même un pas vers la réparation, avant même que quoi que ce soit ne soit prouvé, il s'ouvre par là un chemin vers un traitement plus doux. La punition tombe de plein fouet seulement sur celui qui ne fait rien et se contente d'espérer que ça passera. Un peu comme quand, dans le système actuel, quelqu'un compte balayer sa faute sous le tapis ou carrément l'acheter. Ici, non. Ici, ça vaut la peine de faire ce pas. Et maintenant, quelque chose de terriblement important, pour que vous voyez qu'il ne s'agit pas de jouer au shérif. Cette punition, vous n'êtes pas obligé de l'exécuter vous-même. Pas du tout. Vous pouvez la déléguer. Exactement comme quand vous payez une assurance. Vous payez une autorité qui est spécialisée dans l'exécution et qui le fait selon des règles fixées à l'avance. Un peu comme les enquêteurs, les forces de l'ordre et les tribunaux d'aujourd'hui réunis, mais sur un marché, pas en monopole. Et quand une telle autorité exécute de façon disproportionnée, ou au contraire, n'exécute pas du tout, sa réputation en souffre. Et comme elle aussi vit de sa réputation, elle ne peut pas se le permettre. Cette délégation est en fait un principe général de tout le réseau. Tout ce que vous pouvez confier à quelqu'un de spécialisé, vous pouvez aussi le reprendre à tout moment. Ça vous permet d'utiliser des spécialistes sans perdre le contrôle final sur votre affaire. Et en prime, ce que seules les banques et les gros acteurs savent faire aujourd'hui, c'est-à-dire évaluer à l'avance à qui on a affaire et à quel point c'est risqué, deviendrait d'un coup accessible à absolument tout le monde. Quelqu'un vous préparerait pour quelques euros un résumé lisible sur votre partie adverse, en fonction de ce qui vous intéresse. Bien. Tout ça sonne joliment en théorie. Mais comment diable arriver là à partir de ce que nous avons aujourd'hui? Ici, je dois souligner un mot qui est absolument central dans tout Personne X. Ce mot, c'est évolution. Pas révolution. Évolution. Aucun renversement. Aucune barricade. Aucune nuit des longs couteaux. Un changement brusque suscite en effet toujours de la résistance et brise des liens auxquels les gens tiennent parce qu'ils les connaissent. Les gens protègent instinctivement ce qu'ils ont, même quand ce n'est pas parfait. Donc cette transition doit être progressive et surtout telle que l'ancien système ne puisse pas l'éteindre d'un seul bouton. Parce que s'il le pouvait, ce serait éteint tout de suite. La meilleure image pour ça, c'est le pont. Imaginez une rivière et sur cette rivière un vieux bac qui transporte les gens depuis toujours. Et vous, à côté de ce bac, vous construisez un pont. Vous n'interdisez le bac à personne. Qu'il continue à naviguer aussi longtemps qu'il veut. Mais avec le temps, les gens passeront d'eux-mêmes sur le pont, parce que c'est plus confortable, plus rapide, et que ça leur est plus avantageux. Personne ne les force, ils passent parce qu'ils le veulent. Et c'est exactement comme ça qu'il faut imaginer toute la transition vers Personne X. Vous construisez une nouvelle couche par-dessus l'ancien système. Une couche qui le transforme progressivement en une partie de plus en plus petite d'elle-même. Au début, cette nouvelle couche se confond presque avec l'ancien monde. Mais à mesure que le temps passe, les gens se déplacent. Les entreprises font ça couramment. Elles construisent un système parallèle et y transfèrent lentement leurs clients. La seule chose à laquelle il faut faire extrêmement attention, c'est de ne pas provoquer cette révolution violente parce qu'elle détruirait tout. Et pourquoi justement l'argent? Pourquoi faire passer tout ça par l'argent? Parce que l'État est au fond un flux d'argent. C'est par l'argent qu'il paye son appareil de contrainte, ce dernier maillon qui fait respecter physiquement les règles. Sans argent, pas de monopole de la violence. Quand l'argent commence à se bloquer, l'État recule, parce qu'il n'a plus de quoi payer ceux qui le maintiennent en vie. Et l'argent a une propriété exceptionnelle. On peut exercer une pression dessus de façon volontaire, pacifique, et transparente. Vous n'avez à menacer personne. Vous n'avez rien à faire sauter. Ce serait du terrorisme, et Personix s'en distancie fermement. Il suffit que l'argent commence à couler ailleurs. Et pour ça, Personix a quatre outils qui se soutiennent mutuellement. Aucun d'eux ne suffit à lui seul, mais ensemble, ils tiennent comme un mur. Prenons-les dans l'ordre. Le premier, c'est un système fiscal complètement simple, et il sert d'appât d'entrée. Un seul taux unique sur tous les revenus. Aucune exception. Aucune vacance fiscale. Aucune déduction pour les entreprises. Aucune incitation pour les copains. Une phrase à la place de milliers de pages de loi auxquelles personne ne comprend rien de toute façon. Et comme chaque paiement est lié de façon vérifiable à l'identité qu'il a payée, le contrôle est trivial. Et maintenant l'astuce. Ce taux est fixé un peu plus avantageusement que ce que vous payez dans l'ancien système. Vous avez donc une raison d'entrer. Et mieux encore, cette charge diminue d'année en année, si bien que le nouveau système devient de plus en plus attirant et que les gens y passent de plus en plus vite. Le deuxième outil est peut-être ce qu'il y a de plus drôle dans tout Personix. Ça s'appelle le registre électronique des dépenses, mais vous allez tout de suite en comprendre l'essence. Vous vous souvenez de la caisse enregistreuse certifiée ? Cette obligation qui fait que la caisse de chaque commerçant doit enregistrer chaque vente de façon inaltérable. L'État surveille ainsi chaque recette de chaque commerçant, parce qu'il part du principe que chacun de nous le vole. Eh bien, c'est exactement ça, mais retourné cul par-dessus tête. Maintenant, ce n'est plus nous qui surveillons le commerçant. Maintenant, c'est nous qui surveillons chaque dépense de l'État, une par une. L'État ne touche pas un seul euro pour un paiement, tant que ce paiement n'est pas passé par ce tamis. Pour chaque dépense, il doit être écrit à qui elle va, pourquoi elle va et pourquoi faire. Et le résultat, ce sont des données publiques brutes que n'importe qui peut consulter et analyser. Ce que les organes de contrôle n'ont pas réussi à faire en des années de travail est d'un coup à portée d'un clic. Et vous n'êtes même pas obligé de passer au nouveau système fiscal pour ça. Il suffit que pour chaque paiement surveillé, vous déposiez une petite caution remboursable, disons quelques euros, et quand tout est en ordre, vous la récupérez. Ça sert seulement de filtre anti-spam pour que personne ne noie le système sous un million d'enregistrements absurdes. Et cet enregistrement, n'importe qui peut le saisir. Le petit-fils pour son grand-père devenu impotent, le voisin dont la commune ne répare pas le trottoir cassé depuis des années, l'entrepreneur à qui l'État n'a pas payé sa facture, le fonctionnaire qui se contente d'exporter des données. Et vous savez ce qui arrive aux partis politiques ? Ils se transforment. De bénéficiaires de l'argent de nos impôts, ils deviennent fournisseurs d'analyse. Au lieu de vivre de subventions, ils proposeront à leurs sympathisants des synthèses sur les dépenses qui sont en ordre et celles qui ne le sont pas. Et les dépenses bâclées ou absurdes de l'État deviennent automatiquement les premières candidates à la coupe. La belle pointe de l'histoire, c'est que la caisse certifiée nous dit « Nous partons du principe que chacun d'entre vous nous trompe. » Là, c'est la même logique, juste retournée. Maintenant, c'est l'État qui doit rendre des comptes aux citoyens. Et comme le dit l'auteur, si le poté obscur n'a pas hésité à nous surveiller comme ça, pourquoi devrions-nous hésiter à le surveiller lui ? Le troisième outil donne des dons à tout ça. C'est la possibilité de décider vous-même d'une partie de vos impôts. Au premier tour, l'État reçoit l'argent de toute façon. Mais au deuxième tour, plus. Au deuxième tour, c'est l'analyse issue du premier tour qui décide. Un petit pourcentage de vos impôts, vous le dirigez vous-même là où vous voulez. Si votre identité remplit quelques conditions. Par exemple que vous êtes un citoyen réel et adulte. Et ce pourcentage grandit d'année en année. Peut-être de 5% aujourd'hui à des dizaines de pourcents dans 10 ans. Et rendez-vous compte de ce que ça veut dire. Le combat politique se déplace. Il ne s'agit plus seulement de glisser un bulletin dans l'urne une fois tous les 4 ans et de regarder ensuite pendant 4 ans ce qu'ils en ont fait. D'un coup, vous décidez chaque année, avec des euros concrets, où votre argent va couler. Et attention, vous ne fuyez pas les impôts, vous les payez intégralement, vous les dirigez simplement vous-même. Et le quatrième outil, c'est le levier qui relie tout ça ensemble. Et c'est seulement grâce à lui que ça devient une force réelle. C'est une plateforme de négociation avec l'État. Ça marche comme ça. L'État reçoit son argent, pour ainsi dire, à la dernière minute. Seulement s'il remplit les conditions de transparence, s'il apparie et documente correctement la dépense. Et dans ce réseau se forme une sorte de liste d'attente de gens prêts à s'engager. Et dès que ce groupe atteint une taille économiquement significative, assez grande pour pouvoir menacer la croissance de toute l'économie, alors ça s'active. Alors la désobéissance civile devient une menace crédible, et pas seulement le geste de quelques enthousiastes. Et l'État recule. D'abord là où il a une défense facile et où il n'y a pas d'économie à chercher. Ces paiements problématiques, ceux qui sont liés à la corruption, il les gardera le plus longtemps. Mais cette pression croissante finira par le forcer à céder sur toute position. Et à cela se rattache une chose magnifique. La citoyenneté sans carte d'identité. Dès que vous avez votre propre identité, dont vous êtes vous-même garant, la carte de l'État perd son monopole. Vous n'avez pas besoin d'un papier de l'administration pour prouver qui vous êtes. Vous avez toute une série d'identités, et certaines d'entre elles portent des attestations vérifiables et permanentes. Que vous êtes français, que vous habitez dans cette commune, que vous avez fait telle école. Et cette vérification, ce sont des autorités de marché qui la prennent en charge. Des notaires, des communautés locales, des employeurs qui garantissent de leur réputation que cette identité vous appartient bien. Et ces informations sont vérifiées à travers le réseau, une deuxième fois, une troisième, une quatrième, et il en découle une chose énorme. Ce n'est plus un fonctionnaire derrière son bureau qui décide qui appartient à la communauté. C'est la communauté elle-même qui décide, à travers ses signaux de réputation. Et maintenant j'attends l'objection, parce que c'est l'objection la plus intelligente que vous pouvez faire là-dessus, et elle mérite une réponse honnête. Cette objection dit ceci. Vous remplacez ici le marché par des points de réputation. Vous introduisez un système de plus, ou à la place des prix, au compte des notes de comportement. Et c'est exactement là-dessus qu'ont échoué toutes les économies planifiées. Sans marché, sans prix, on ne peut rien calculer. C'est une impasse. Ce n'est qu'une utopie de plus, de têtes intelligentes qui croient pouvoir être plus malignes que la réalité. Bien. Cette objection est sérieuse, et je vous dis tout de suite qu'elle est erronée. Mais pas parce que ces vieux économistes, qui mettaient en garde contre la planification, auraient eu tort. Elle est erronée parce que Personne X ne fait pas ce qu'il critiquait. Écoutez attentivement, parce que c'est important. Personne X ne supprime pas le marché. Il ne supprime pas les prix. Il laisse les prix faire exactement ce qu'ils savent faire. Ce qu'il fait, c'est étendre le calcul de marché à un domaine où aujourd'hui il n'y a aucune mesure du tout. L'argument classique contre la planification dit que sans prix, vous ne savez pas combien produire de quoi, ni ce qui est rare et ce qui ne l'est pas. Parce que les prix sont ce signal qui porte le savoir dispersé de millions de gens. Et ça reste vrai, Personne X n'y touche pas. Personne X ajoute simplement à côté du prix un deuxième signal. Un signal sur le degré de risque que représente la personne avec qui vous voulez faire affaire, sur sa fiabilité. Le prix vous dit combien coûte la chose, mais il ne vous dit pas si l'autre va vraiment vous la livrer, ou s'il va vous rouler. Et ce deuxième signal manquait ici, ou n'existait que sous des formes qui ne faisaient que confirmer cette critique. Parce que ce risque, on le mesure aussi aujourd'hui, mais comment ? L'État le fait à travers ses registres, sauf qu'ils sont lents et censurables. Les banques ont leur score, sauf que c'est un monopole fermé dans lequel vous ne voyez rien. Les plateformes, comme les différentes places de marché ou les transporteurs, ont des étoiles et des évaluations, sauf que vous ne les emportez pas avec vous quand vous partez ailleurs. La recommandation entre voisins fonctionne, mais elle ne passe pas à l'échelle au-delà du village. Et toutes ces méthodes souffrent de la même maladie. L'un en sait plus que l'autre. Les économistes appellent ça le marché des citrons, d'après les voitures d'occasion. Quand l'acheteur ne distingue pas une bonne voiture d'une épave, il se met par précaution à proposer un prix moyen. Sauf qu'au prix moyen, le vendeur honnête d'une bonne voiture ne veut pas vendre. Alors il s'en va. Et il ne reste sur le marché que les épaves. Cette maladie détruit la confiance tout autour de nous. Et Personne X oppose à ça un deuxième signal, publiquement vérifiable, cher à falsifier et bon marché à vérifier. Donc si je résume, nous ne supprimons pas le calcul économique. Nous enlevons simplement le monopole sur cette infrastructure qui permet de calculer le risque de la partie adverse. Le réseau de réputation rend le mécanisme de marché plus complet, pas plus marginal. Et il y a une limite que je dois honnêtement reconnaître, parce que sans elle, je vous mentirais. La réputation ne remplace pas les prix. Elle ne remplace pas le prix du travail, le prix des matériaux, le prix du capital. Le vieil argument sur les prix reste valable et personne X ne le conteste pas. La réputation n'est qu'un complément, un signal pour une seule dimension que le prix seul n'a jamais donnée. Et c'est la fiabilité de l'autre, et juste en passant. Ce n'est même pas de la science-fiction. Des réseaux de réputation ont fonctionné dans l'histoire. Les marchands du Moyen-Âge, qui commerçaient à distance, à travers toute la Méditerranée, sans un seul tribunal commun, tenaient tout ce système ensemble uniquement grâce à une réputation vérifiable. Et ça a marché pendant des générations. Et là, je dois freiner et dire quelque chose qu'on n'attend peut-être pas, mais qui est dans Personix depuis le début, et c'est ce qui m'a convaincu. Ce n'est pas un sauveur. Ce n'est pas un miracle. C'est un outil. Et comme tout outil, il peut échouer, il peut être mal utilisé, et il ne résout rien tout seul. L'auteur de l'idée le dit sans détour. Il n'existe probablement aucun chemin sur lequel quelqu'un d'autre viendrait ranger le bazar d'aujourd'hui à votre place. Aucun héros n'arrivera sur un cheval blanc. Aucun bouton unique. Aucun chef unique. Aucune appli unique n'arrangera ça. Personix propose une façon de sortir de ce piège, mais ce travail, ce sont les gens qui devront le faire. Vous, nous. Et il y a encore une humilité que j'apprécie là-dedans. Une humilité à l'égard de l'avenir. L'auteur est très sûr de lui, sur la façon dont le monde fonctionne aujourd'hui. Comment fonctionne l'argent, comment fonctionne le pouvoir, comment fonctionnent les gens. Ça, il l'a mesuré et défendu, mais il est très prudent sur ce qui va arriver. Il ne prétend pas que ce chemin précis soit le seul bon, ni le meilleur. Il dit seulement qu'il paraît cohérent, et qu'il a un énorme avantage. On peut faire marche arrière. Et c'est peut-être la chose la plus importante que vous devez retenir de notre discussion d'aujourd'hui. Cette réversibilité. Chaque pas peut être repris. Parce que ce nouveau système, au début, ne fait que se superposer à l'ancien et ne change que les incitations. Seulement ce qui est avantageux pour qui. Progressivement, l'ancien rétrécit, mais il ne disparaît pas du jour au lendemain, et théoriquement, il n'est pas obligé de disparaître un jour. Et si une erreur de conception apparaissait quelque part, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas une catastrophe sans retour. C'est juste une correction. Vous revenez d'un pas, vous corrigez et vous continuez. Aucun pont brûlé. Et c'est exactement ça qui rend les révolutions si dangereuses. Dans une révolution, il n'y a pas de chemin de retour. Quand ça craque en entier et les gens meurent. Ici, non. Ici, quand un cas particulier exige que l'État vienne encore dépanner et tenir quelque chose, eh bien, il dépanne. Certaines choses n'ont en effet pas forcément de substitut marchande, par exemple la défense du pays. Et même s'il fallait un jour, en cas de crise, transférer des pouvoirs exceptionnels, comme quand les anciens Romains nommaient un dictateur pour quelques mois, même cette possibilité peut rester. À une différence près, la responsabilité repose sur toute cette société décentralisée, pas sur un seul chef. Et les pouvoirs transférés peuvent être repris bien plus facilement dès que le danger est passé. Voilà, c'est Personix en résumé. Du moins le premier regard, la première couche. Ramenons ça à ce que vous devez retenir. Si vous deviez oublier tout le reste. Nous vivons dans un système où les gens qui écrivent les règles ne vivent jamais avec leurs conséquences. Où l'État peut très bien vous reconnaître que vous avez raison et vous recommander quand même de vous taire. Où la justice est un produit de luxe pour ceux qui ont les moyens. Et Personix est une tentative de retourner ça. De construire, à côté de l'ancien monde, une nouvelle couche dans laquelle vous avez votre propre identité, que personne ne peut vous enlever. Où vous construisez votre réputation par ce que vous faites. Où mentir n'est pas rentable, non pas à cause de la morale, mais à cause du prix. Où une injustice peut être documentée de telle façon que ça signifie quelque chose, même si cet enregistrement coûte un effort honnête. Et où l'on parvient à tout ce changement lentement, volontairement, et de telle façon qu'on peut revenir en arrière à chaque pas. Et maintenant le plus important, ce pourquoi j'ai en fait préparé toute cette discussion. Je ne vous demande pas d'y croire, pas du tout. la foi est la dernière chose dont cette idée a besoin. Je vous demande autre chose, que ça vous reste en tête, que vous y réfléchissiez, et surtout, que vous essayiez de la casser, de trouver le trou, l'endroit où ça n'a pas de sens, la fissure dans la conception que je vous ai peut-être cachée ici, ou dont je n'ai moi-même pas connaissance. Parce que c'est exactement ça dont cette idée a le plus besoin, pas des admirateurs. Elle a besoin de gens qui s'y attaquent, et qui essaient honnêtement de la réfuter. Si elle tient le coup, elle est plus forte. Sinon, on la corrige, ou on la jette. C'est comme ça que ça doit être. Alors prenez cette toute dernière question, et gardez-la en tête, après avoir éteint cet audio. Souvenez-vous de la dernière injustice que vous avez préféré ravaler. Celle où vous saviez que vous aviez raison, et où vous n'avez quand même rien pu faire. Combien ça vous aurait coûté d'obtenir réparation? Et s'il y avait ici une porte de sortie, cette couche à côté de l'ancien monde, où obtenir gain de cause ne coûterait pas plus cher que l'injustice elle-même, qu'est-ce que vous en feriez, vous? Qu'est-ce que vous ajouteriez? Qu'est-ce que vous corrigeriez? Par où commenceriez-vous? Parce que si cette idée doit prendre vie un jour, ce ne sera pas parce que quelqu'un l'applaudit, mais parce que des gens comme vous s'y attaquent. Alors c'est à votre tour. Et si tout ça vous a un peu accroché, si vous avez envie de suivre cette idée plus loin, de vous colloter avec elle, et de voir où elle va, abonnez-vous, pour ne pas rater ce qui arrive la prochaine fois. Et pour finir tout à fait, ceci n'était qu'une première prise de contact, une vue d'en haut. Presque chaque chose dont j'ai parlé est traitée bien plus en profondeur par le pamphlet et le white paper, et beaucoup d'autres n'ont pas trouvé leur place ici. Alors si ça vous a accroché, voici un avant-goût de ce qui vous attend là-bas. Je commence par le fonctionnement sous le capot. Vous apprendrez comment, exactement, les mathématiques font en sorte que vous ne puissiez ni choisir, ni deviner à l'avance qui va juger votre attestation, et cela sans aucun serveur central et sans blockchain. Par quelles quatre portes votre attestation passe avant que quelqu'un ne la laisse passer ou n'en fasse monter le prix. Vous y trouverez l'astuce la plus intelligente de tout le réseau. Comment le forcer à l'honnêteté au moyen de gardiens qui n'ont même pas besoin d'exister réellement. Quelle technologie concrète fait que le réseau ne peut pas être éteint, quoi que l'État y consacre? Et comment on peut garantir qu'un enregistrement numérique correspond à ce qui s'est réellement passé? Un problème avec lequel tout le monde des crypto-monnaies se débat. Ensuite, il y a la résistance et la vie privée. Comment le réseau se défend contre des milliers de fausses identités? Et pourquoi même un homme riche n'achètera pas toute une communauté? Ce qu'il en est vraiment de votre vie privée, si vous pouvez prendre un nouveau nom et repartir de zéro, et ce qui peut ou ne peut pas être caché. Comment plusieurs identités séparées peuvent vous protéger, si vous vivez là où la vérité est dangereuse, et que le réseau a un bouton intégré entre liberté et contrôle, que ce n'est pas vous qui tournez vous-même, mais votre communauté. Ensuite, les questions autour de la justice, qui vont plus loin. Comment, à partir de milliers de règles personnelles, naît un contrat social que personne n'a écrit ni signé? Qui peut prendre votre défense quand vous ne pouvez pas vous défendre vous-même? Selon quels critères précis le réseau distingue une accusation crédible du hasard ou de la calomnie? Et comment une influence fondée sur la fonction et les relations se transformerait en une influence fondée sur ce qu'une personne sait faire de façon démontrable? Et puis les choses les plus tranchantes sur lesquelles les auteurs n'esquivent pas. Pourquoi quelques pourcents d'inflation que vous ne remarquez presque pas, vous vole silencieusement et vous attache à l'État? Et pourquoi il parle de la chute de la plus grande pyramide de Ponzi de l'histoire, le système de retraite par répartition, comme d'une horloge qui tourne à côté de tout le projet? Et pour finir, ce que j'apprécie le plus dans toute cette affaire. Les auteurs pointent eux-mêmes les faiblesses de leur propre projet. Le problème du démarrage à froid, le risque que les coûts excluent justement les plus pauvres avec leurs plaintes, et la question ouverte de ce qui arrivera quand ce seront des machines, et non des humains, qui se mettront à écrire les mensonges. Vous y trouverez aussi des mathématiques dures, qui transforment ces principes en chiffres et en formules précises, et pas seulement en récits. Et vous apprendrez quel est leur prochain pas, celui par lequel ils veulent mettre toute l'idée à l'épreuve, ou éventuellement l'enterrer. Tout ça, et bien plus encore, vous le trouverez dans le pamphlet et dans le white paper Personix.